Nous sommes en direct avec Perrine Lachenel, bonjour.
Bonjour.
Pourquoi cette enquête et ce livre? Qu'est-ce que vous avez voulu amener d'autre que ce qui a déjà été écrit, notamment dans la presse lors de ce procès?
Nous, on a travaillé en tant qu'anthropologue et l'anthropologie, c'est une discipline qui est singulière dans le sens où c'est vraiment une discipline du quotidien. On dit que c'est une discipline de l'immersion, de la description, de l'observation qui attache beaucoup d'importance à, justement aux gestes, aux mots, aux détails, au silence même, ce qui est souvent même pas forcément visible, ce qui est un peu enfoui dans les quotidiens. Et ça nous a justement paru singulier de proposer notre discipline pour comprendre un événement qui nous impressionnait par son exceptionnalité, justement, comme vous le disiez, peut-être pour voir ce qu'il avait fait au quotidien, aux personnes, et voir qu'un événement aussi grand soit-il, n'est finalement que la somme de toutes les histoires singulières qu'il constitue et la manière dont ces histoires résonnent entre elles. Donc, c'était voilà, l'enjeu de se promener, d'aller voir ce que ça faisait cet événement aussi hors du tribunal, à l'église d'à côté, à l'école, dans la salle de café, à l'hôpital, à Mazan aussi, et comprendre justement la diversité avec beaucoup d'épaisseur et de complexité de ce qu'a produit ce procès.
Justement, vous avez récolté des centaines de témoignages d'hommes, de femmes, les deux, et qu'est-ce qu'il en ressort ?
Ce qui nous a, je pense, le plus interpellés, c'est la facilité, on peut dire, avec laquelle les femmes se sont très vite exprimées, des femmes de toutes sortes, de toutes professions, de tout âge, sur le procès, en étant capables de parler au « nous », hein, nous les femmes, de faire lien avec l'histoire de Madame Pellicot, à leur propre socialisation aussi dans la violence, dans la peur de la violence sexuelle. Et on a été voilà, un peu plus, je pense, déstabilisés par la position des hommes, hein, à part quelques rares cas où il y a pu avoir des déplacements, des remises en question. La grande majorité des hommes avec lesquels on a parlé ne se sentaient pas vraiment concernés. Il y avait beaucoup de stratégies rhétoriques justement pour mettre à distance ces accusés qui étaient des malades, des pervers, etc. Et on voit que c'est quand même un souci qui reste, hein, c'est-à-dire qu'on ne peut pas reconnaître que la violence sexuelle contre les femmes et les enfants est systémique si on parle seulement de protéger les victimes, hein, puisqu'il y a des auteurs, il y a un système qui produit ces auteurs, qui produisent des manières d'être hommes qui sont problématiques, et que cette remise en question sur la masculinité, elle est indispensable, et surtout, elle ne peut pas se faire sans les hommes, bien évidemment.
On a beaucoup parlé qu'il n'y ait pas de huis clos, hein. C'est Gisèle Pellicot qui l'a demandé. Qu'est-ce que ça a amené? Qu'est-ce que ça a changé?
Que cette honte change de camp, hein, c'est ce qu'elle a dit. Je pense que ça résume très bien la situation. Elle avait compris, même Pellicot, hein, que le huis clos ne la protégerait pas, comme en vérité, il ne protège pas la plupart du temps les victimes de viol. Et c'était un choix qui a permis, en fait, via la centaine de journalistes, hein, qui a pu accéder à la salle d'audience, et puis aussi le public, quoi, de faire rentrer vraiment la société dans cette salle d'audience, de pouvoir permettre quand même une mobilisation de femmes, une mobilisation féministe qui était assez inédite, hein, autour des mots « tu n'es pas seule »,« on te croit », hein, des mots que que la société devrait dire à toute femme victime qui fait bien sûr le pas de porter son affaire devant les tribunaux. Et puis, grâce au travail des journalistes, on a pu aussi, grâce à la levée du huis clos, comprendre ce qui se passait dans une salle d'audience dans les cas de jugement de viol, avec pourtant, dans le cas de Madame Pellicot, des preuves que quasi personne n'a, c'est-à-dire des vidéos, hein, des violences et des viols. Et pourtant, de savoir que ce qui se dit dans des salles d'audience, c'est toujours, on entend toujours des remises en question de la moralité de la victime. On entend toujours des défenses de l'appétence quasi naturelle des hommes à violer. Donc, c'est aussi mettre à jour ce que c'est qu'une justice patriarcale. Et je pense qu'en la mettant à jour, on va, voilà, peut-être ça donne plus de mobilisation pour pouvoir s'en prendre à elle et changer les choses.
En quelques mots, quel enseignement tirer de ce procès ?
Alors, il y en aurait sans doute plusieurs. En France, de manière tout à fait formelle, il y a eu déjà beaucoup de choses qui ont été faites par rapport à la question de la soumission chimique, la question du consentement qui a été remise à l'agenda législatif. Hein, on a ouvert aussi une parole sur le viol conjugal, hein, qui est au cœur de ce procès et qui est toujours un impensé, un imparlé. La route, elle reste extrêmement longue, hein, parce qu'on le voit, les résistances sont nombreuses. Mais je dirais que l'enseignement le plus fort, et pour peut-être finir sur une note positive, c'est de redécouvrir, de découvrir la force des mobilisations de femmes et des mobilisations féministes, hein, pendant les 4 mois qu'ont duré ce procès, dans toute leur diversité de ces mouvements, et de prendre conscience à nouveau à quel point on est une masse critique. Et vous avez la grève des femmes dans quelques jours. Je pense que ce sera une belle illustration, et qu'on est puissante et des actrices possibles, et on le voit, de ce changement dans la lutte contre les violences sexuelles.
Perrine Lachenal, vous avez coordonné avec Céline Lesourd cette enquête et cet ouvrage sur les viols de Mazan. Vous serez toutes les deux demain au Club 44 à la Chaux-de-Fonds. La conférence Mazan, anthropologie d'un procès pour viol, commence à 20h15. On vous remercie d'avoir accepté notre invitation. On vous souhaite une belle journée.
Merci beaucoup. Bonne journée.